tiger. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. I feel good, c'est 30 minutes pour profiter des ondes positives d'un invité qui vous donne l'envie d'agir ou qui vous partage en tout cas son énergie, le sens de son engagement, l'envie de son engagement. Madame, mesdemoiselles, messieurs, avec lui, c'est plus de 50 ans d'engagement associatif sur le territoire métropolitain. Madame, mesdemoiselles, messieurs, il est encore actif et sacrément actif, c'est Jean-Paul Lacresse.
So good! So good!
Bonjour Jean-Paul.
Bonjour. Bonjour aux auditeurs.
50 ans, c'est vrai ? C'est 50 ans. C'est au moins 50 ans ?
Plus que 50, 55 au moins.
Alors,
j'ai commencé avant 20 ans alors donc.
Et t'as commencé comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fertilisé cette envie de s'engager ?
Je crois qu'un des premiers déclics, c'était ma première révolte, si on peut dire. Ouais. C'était à propos de la guerre du Vietnam, dans le sens suivant, c'est que le cardinal Spielman, qui était le cardinal de New York, baptisait les canons qui partaient pour le Vietnam. Et ça m'avait profondément choqué, parce que j'avais une culture, une éducation chrétienne, et donc tu ne tueras pas. Et je me disais, un évêque, un archevêque, qui bénit des canons, qui vont tuer les gens, ça m'a vraiment révolté, et je crois que c'était un premier mouvement qui a déclenché, pas que ça, mais c'est un premier mouvement.
Ça veut dire que derrière, c'était un sens de bâtir une autre société.
Oui, alors après,
on voit un peu les années aussi.
Oui, alors après, comme je dis toujours, la vie est faite de rencontres et de séparations. C'est-à-dire que dans sa vie, on rencontre des gens, et puis on s'en sépare pour certains, parce que la vie fait que certains disparaissent. Donc j'ai évidemment la première personne qu'on rencontre dans la vie, c'est sa maman, hein, puisque ouais. La première rencontre de notre vie, qui est la plus marquante, la plus fondamentale, puis évidemment après son père et toute sa famille, etc. Puis après tous les amis, puis tous les copains, puis etc. Et en fonction de notre évolution dans la vie, on fait des rencontres. Certaines sont très fructueuses, c'est-à-dire qu'elles nous apportent beaucoup. Et donc voilà. Et puis alors après, avec l'âge, il faut dire que beaucoup d'amis disparaissent. Parce que quand j'étais jeune, j'ai connu des gens plus âgés que moi, qui aujourd'hui sont disparus, mais qui ont marqué mon existence. Quoi.
Alors, justement, le petit Jean-Paul, il est né où ? Sa maman l'a mis au monde où, alors ?
À Nancy, à la maternité, voilà.
À Pinard ?
Oui, exactement, Adolphe Pinard. Et donc, après, j'ai grandi dans une rue à Nancy, qu'on appelle la rue de Romanoville, et qui était une rue qui avait une particularité, c'est que beaucoup de membres de ma famille habitaient dans la rue. Les grands-parents habitaient au 33, j'avais des oncles et tantes au 31, j'en avais au 20, au 15, au 18, etc. Et donc toute la famille était dans la rue, et donc mes cousins, cousines, mes oncles et tantes, on vivait ensemble autour des grands-parents qui faisaient table ouverte tous les samedis à midi.
Ah ouais.
C'est-à-dire qu'on pouvait y arriver, il y avait toujours de quoi manger, frites, steak, etc. Et tout le monde venait le samedi midi.
Donc on aurait pu rebaptiser cette rue, ça laisse un peu un souvenir, je vois un sourire aussi affectueux, ça laisse un souvenir.
Oui, parce qu'on vivait vraiment comme un groupe fraternel, ouais. Ça c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment formateur. Quoi.
Et pas excluant pas...
Non, parce qu'on avait tous les copains de l'école en plus. Voilà.
Donc, Nancy...
Alors après, ouais. J'ai déménagé à 15 ans. Mes parents ont acheté un appartement à Tomblaine, où mon père était né, ma grand-mère était née, donc la famille est de Tomblaine, pour beaucoup. Et la particularité, pourquoi mes parents ont acheté un appartement quand j'avais alors 15 ans, c'est que on habitait à Nancy dans un appartement de deux pièces, c'est-à-dire une cuisine, une chambre, et on était cinq, mes parents et mon frère, ma sœur. Donc on était cinq personnes... Une chambre pour cinq personnes. Et encore, ma mère avait fait réquisitionner le logement après la guerre, parce que c'était la crise pire ouais. qu'aujourd'hui. Et donc, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 15 ans dans un appartement avec une cuisine où on vivait à cinq et une chambre où on vivait à cinq. Alors, quand on a déménagé à Tomblaine, on a eu un appartement F4. Là, c'était royal et c'était le paradis.
Versailles.
Oui, Versailles.
Quand on demande à les études après, du coup.
Oui. Bah oui, alors après, j'ai fait des études et puis c'est comme ça que bon, je suis devenu chimiste. Bah, je résume hein, parce que
ouais.
Au laboratoire des Ponts et Chaussées à Tomblaine, donc. Et donc, j'y ai fait toute ma carrière, 45 ans de service, 45 ans de cotisation à la Sécu. Et donc, j'ai payé ma retraite. Et alors, là aussi, j'ai eu des points intéressants. C'est qu'il y a 45 ans, le laboratoire travaillait sur la pollution des eaux des rivières. Et donc, en tant que chimiste, j'analysais la qualité des eaux de rivière. C'est-à-dire que déjà, à cette époque, c'était les prémices du contrôle de la qualité des eaux de la rivière, le contrôle de l'écologie, en quelque sorte. Donc l'écologie, je n'ai pas commencé aujourd'hui.
Comme un vrai indicateur des politiques
publiques. On mesurait des paramètres, hein, beaucoup de paramètres dans l'eau, quoi. Ouais. Tous les paramètres de l'eau, quoi.
Ça, c'est un épanouissement professionnel, on peut dire. Parce que,
bah oui.
Je fais un peu durer le plaisir, parce qu'on va voir tous les engagements oui. Citoyens que tu as pu avoir, mais le travail...
Le travail, et puis j'ai réussi quand même à concilier le travail et beaucoup d'engagements...
Familiaux, citoyens, on va voir tout ça. Une source d'épanouissement quand même, justement, malgré tous ces engagements qu'on va voir dans quelques instants, le travail, c'était un repère quand même. C'était quel type d'épanouissement ça a pu être?
Ça me plaisait beaucoup parce que d'abord, c'était un travail de scientifique, rationnel, de précision. Et voilà, donc c'était cet aspect-là qui m'intéressait, quoi.
Qui a nourri aussi, pour la réputation que tu as dans le milieu associatif, c'est aussi ce goût de la précision aussi, de l'exactitude de l'information. On le retrouve après dans tes engagements. Ça vient de cette éducation professionnelle, j'allais dire
Ça vient, oui, mais à l'origine, avant, moi, ouais. j'ai un point de vue, peut-être, je suis un peu perfectionniste, comme on dit, c'est-à-dire, je sais que le parfait n'existe pas. Donc si on cherche le parfait... on est forcément déçu puisque ça n'existe pas, donc c'est une chimère. Donc il ne faut pas courir après la perfection, mais il faut courir après l'amélioration et la recherche du mieux possible. Et donc, pourquoi la recherche du mieux possible? Je crois que c'est pour... En fait, c'est pour être aimé. C'est-à-dire, pour que les autres nous aiment, on a besoin d'amour. Et pour que les autres nous aiment, il faut qu'on soit sans défaut, enfin le moins de défauts possible, parce que tous les défauts concourent à ne pas être aimé. Et donc... en essayant de tendre vers la perfection, si on peut dire. Et en fait, c'est parce que, quelque part, on cherche à être aimé par les autres, et on ne vit que par la grâce et par l'amour, et avec l'amour des autres, dans la société. Parce qu'on ne vit jamais seul. Un homme ne peut pas vivre seul. Il vit forcément... Tous les hommes vivent dans des groupes.
Cette place de l'amour est donc assez centrale aussi dans l'engagement. À
oui,
la fois alors, comme reconnaissance, alors, mais comme don de soi aussi.
Oui, alors après, vraiment, une grosse partie de ce qui a guidé ma vie, ça a été quand même la notion de famille, évidemment.
Ça fait partie de tes trois dates. Oui. Tu m'as proposé de dire, bah, écoute, moi, trois dates importantes, c'est mon mariage et les dates de naissance de mes deux enfants.
Exact.
Je te propose qu'on les regroupe,
oui,
effectivement.
Ça, c'est...
Mais soyons, donnons de l'information aux auditeurs. Voilà, c'était ça ton point de départ.
Oui.
Les trois dates importantes dans ma vie, mon mariage, mes deux enfants.
Voilà. Ça, c'est... Après, il y a la vie sociale et mes activités. Mais c'est forcément en second plan.
Allez, présente-nous un petit peu la famille, si tu veux bien, Jean-Paul.
Alors, ma famille.
Ouais, ton épouse. Date importante.
Oui. Oui, bien que je ne sais pas si elle aimerait que je parle d'elle en public.
Tu parles d'elle comme tu veux de sorte que tu puisses rentrer tranquillement à la maison tout à l'heure.
Oui, non, mais je suis libre, mais je respecte l'opinion de mon épouse.
La discrétion.
Ouais, voilà, elle ne souhaite pas, à mon avis, qu'on parle...
Et toi, alors?
Et puis, donc, j'ai deux enfants, donc voilà, un garçon qui travaille à la Cour de justice des communautés européennes, à Luxembourg, qui est référendaire dans cette Cour de justice, et une fille qui est directrice chez Batigère, dans le logement social, quoi, directrice d'une branche, d'un service.
Un papa heureux?
Ah oui, bah oui, oui. Ça, c'est fondamental. D'ailleurs, c'est pour ça que cette base de la famille constitue ma vie. Alors après, à titre personnel, mais après ensuite, mes activités m'ont conduit à devenir administrateur de la Caisse d'allocation familiale, où je suis resté 37 ans administrateur, dont 15 ans président. Donc ça a structuré ma vie beaucoup. Actuellement, je ne pouvant plus être administrateur et président à la Caisse d'allocation familiale, je suis devenu administrateur et président de l'UDAF, parce que le président de l'époque voulait arrêter. Et comme je ne pouvais plus être administrateur et président de la CAF, il me dit, écoute, je t'invite à venir à l'UDAF. Quoi.
On va y revenir sur ces engagements associatifs, mais on voit que c'est de la famille qui est partie...
Oui.
Un repère, mais aussi un engagement vers l'extérieur.
Absolument, oui. Mais je disais tout à l'heure, dans ma rue, on vivait en famille. La famille était vraiment une cellule très fondatrice. Alors après, ça a constitué ma vie. Ouais. Enfin, beaucoup d'activités de ma vie.
Allez, la famille, on fait une petite pause musicale un peu surprenante. Explication juste après Mozart.
Thank you.
Madame, mademoiselle, messieurs, c'était un choix de notre invité, comme d'habitude, et c'est une belle histoire qu'il va nous raconter tout de suite maintenant.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Sur cette musique, mon Dieu, que d'embrassades tu as dû voir, Jean-Paul. Explication de texte.
Alors, pourquoi j'ai choisi cette musique? Parce que pour moi, elle est symbolique. Dans le sens suivant, c'est qu'en 1971, j'étais donc élu au conseil municipal de Tomblaine et j'avais une fonction qui était d'être l'officier d'état civil en titre. C'est-à-dire que le maire et les adjoints n'exerçaient pas la fonction d'état civil et j'étais le seul avec cette délégation. Et donc, mes premiers mariages, j'avais même pas 25 ans, et je mariais les gens, et c'est ainsi que j'ai marié à peu près plus de 500 couples à Tomblaine. Et quand je suis arrivé, la cérémonie du mariage civil, c'est un peu fade.
Ah oui, c'est la lecture de quelques articles.
Voilà, le code, etc. Et donc, j'ai agrémenté la cérémonie du mariage par des intermèdes musicaux que j'avais un magnétophone que je commandais au pied et toute la cérémonie était rehaussée d'extraits donc de ces musiques de Mozart, soit la 40e de Mozart, soit la petite musique de nuit, voilà. Et donc c'est un peu en cette mémoire-là que j'ai choisi Mozart.
Quand je te demande, donc ça fait partie de la deuxième lot de dates, on va dire, pour toi, Jean-Paul, le deuxième lot de dates, c'est cet engagement citoyen. Il commence en 1971, donc, où tu es élu pour la première fois dans un conseil municipal. Oui. C'est celui de Tomblaine, donc, tu avais...
J'avais 24 ans, oui.
Tout jeune, hein?
Oui.
Vite détecté, hein?
Mais oui. Mais je ne pouvais pas être élu plus tôt, parce qu'à l'époque, la majorité était à 21 ans. Donc on ne pouvait pas être élu avant 21 ans.
Donc il fallait attendre que l'élection municipale se présente.
Ouais, voilà, il fallait attendre la première échéance après les 21 ans.
Mais ça veut dire que si tu avais pu, tu étais déjà dans les rouages, prêt, dans les starting blocks, tu étais militant politique, tu connais les affiches?
Oui, je l'étais longtemps. Mais en fait... À Tomblaine, j'ai commencé parce que le maire de l'époque, qui était Herbuvaux, c'est-à-dire deux maires avant que je sois élu, Herbuvaux avait souhaité créer une maison de jeunes et de la culture. Et alors, on avait rassemblé les jeunes de Tomblaine, quoi, tous les ados, etc., dans un groupe, et on a été le groupe qui a commencé à agir pour créer, en accord avec le maire de l'époque, la maison de jeunes et de la culture de Tomblaine. C'est comme ça que j'ai commencé à être... militant, si je peux dire, quoi. Et alors après, j'ai fait des rencontres de Herbuvaux et de Duru, etc., qui fait que je me suis engagé dans le Parti Socialiste. Mais justement, avec cette besoin de justice que j'avais déjà dans mes réflexions, quoi.
Cet engagement au sein des partis, parlons-en un petit peu parce que le monde d'aujourd'hui connaît peu les partis politiques. Mmh. Quel était le rôle d'un parti politique hier dans l'organisation? Alors, avec le recul aussi, Jean-Paul, nous dire les points positifs, peut-être aussi les points moins positifs.
Non mais on ne peut pas comparer, je trouve, la situation actuelle avec ce qui était à l'époque il y a une cinquantaine d'années. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de réflexions philosophiques, idéologiques, et on savait la différence entre les choses qui aujourd'hui sont beaucoup plus atténuées. Et donc, il y avait beaucoup de réflexions sur l'expression de la liberté, de la justice sociale. Et donc, c'est en ce sens-là que ça m'avait provoqué mon engagement. Et donc, la lutte contre le capitalisme, il y avait cette utopie de créer une société meilleure et plus éclairée en quelque sorte, et c'est ce besoin-là qui guidait l'action. Aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup moins précis. Et donc, je pense qu'on devrait revenir aux réflexions plus philosophiques qui nous ramèneraient un peu à la clarté, à éclairer un peu le sens de l'action.
La stratégie des moyens prend le pas sur l'objectif humain.
Voilà. Alors, avec après, il y a le besoin de faire le bien en quelque sorte. C'est aussi les racines religieuses en quelque sorte. Ouais. Hein, le besoin de faire le bien.
En même temps, tu es venu justement avec une feuille avec une vingtaine de citations. Ouais. Je crois que ça fait partie des premières, non?
Oui, c'est ça. L'ambition de faire le bien est la seule qui compte. Voilà, ça c'est une de mes devises. C'est une vingtaine de phrases qui sont, comme on dit, affichées dans mon bureau et que j'ai recueillies au cours de ma vie et de mon existence et qui sont des guides, donc je ne vais pas citer les 20,
non.
Mais c'est quand même de ces choses-là
Tu peux en citer une ou deux si tu veux.
Vas-y, oui, bah, la seule autorité possible est celle de la compétence.
Voilà, c'est une stratégie de moyen, là, par contre. Voilà.
L'effort persévérant triomphe des difficultés. Ça, c'est ce qui était écrit sur mes carnets de notes à l'école primaire. Tous les mois, on avait une carnet de notes à l'école primaire, parce qu'il y avait des notes, et en exergue, c'était écrit que l'effort persévérant triomphe des difficultés. Ça a guidé mon action, puisque c'est vrai. Voilà.
Si je te laisse parcourir encore une ou deux.
Alors, fais ce que dois et advienne que pourra. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où on doit décider de choses qui ne sont pas faciles à décider. C'est pas toujours simple. Mais néanmoins, il faut se dire que, puisqu'on doit décider, il faut le faire, même quoi qu'il en coûte, en quelque sorte.
Voilà. Tu peux nous donner un exemple?
Oui, bah, ça arrive.
Dans ta vie? Dans ta responsabilité?
Oui, c'est un peu compliqué, quoi. Mais...
Comme ça, là, c'est difficile. En plus,
c'est un peu... Oui.
Donc, je reviens. Engagement citoyen, mandat, 1971, 30 ans.
Oui.
30 ans,
oui, j'étais
12 ans
élu, réélu 30 ans, oui, oui. Puis après, bon, j'ai arrêté. J'étais encore réélu au bout de 30 ans. J'aurais encore pu faire un mandat de 6 ans de plus, mais j'ai...
30 ans, c'est pas mal.
Oui. Puis j'ai fait beaucoup d'autres occupations, et puis voilà.
Et de cet engagement d'élu, aujourd'hui, tu en gardes quoi? Est-ce que tu encourages encore à cet engagement?
Oui, l'engagement citoyen est fondamental. Hein. Je crois. L'ambition de faire le bien, ça c'est une chose. Et aussi, je pense qu'on ne peut pas être à la fois responsable et désespéré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se plaindre que les choses vont mal. Il faut être responsable et agir pour modifier, pour évoluer, pour construire sa vie. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est construire sa vie. Donc, on l'a construit en agissant.
Donc, dans cet engagement citoyen, il y avait les fonctions électives. Et puis, un autre pan important de ta carrière et de ta vie, Jean-Paul, c'est l'engagement associatif. Alors là, je l'ai un peu sous les yeux, mais là aussi c'est beaucoup trop long. C'est plus de 50 ans de vie associative, notamment autour de la vie familiale.
Oui. Donc, à la caisse d'allocation familiale pendant 37 ans ou à l'UDAF, tout ça, c'est tout ce qui tourne autour de la famille. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on mette au service des hommes et des femmes tous les moyens possibles, l'organisation de la société possible pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent se réaliser, pour qu'ils puissent devenir eux-mêmes, devenir soi. C'est cela. Alors évidemment, l'organisation collective de la société, des groupes et des associations, c'est de concourir à cela.
Donc si on donne une date, parce qu'on essaie de donner des dates, tu m'as dit 2006, c'était pour essayer de retrouver une date parmi tous tes engagements. C'est quoi 2006?
C'est quand je suis devenu président à l'UDAF. Et donc là, c'est aussi...
Alors l'UDAF, ça sert à quoi?
C'est l'Union départementale des associations familiales. Donc, qui a été créé en 1945 par le gouvernement provisoire de la République, présidé à l'époque par le général de Gaulle. Parce que dans le gouvernement provisoire de la République, après la guerre, il y a eu 5 périodes, dont la première, présidée par de Gaulle. Et c'est ce gouvernement-là qui a créé les UDAF en mars 1945. Et ensuite, il a créé la Sécurité sociale en octobre, je crois.
Après, ouais.
Et donc, c'est un gouvernement qui a été très productif. Et donc, il a créé les UDAF en disant aux associations familiales, regroupez-vous pour plusieurs motifs. D'abord, le pays était désorganisé, parce que c'était après la guerre, et il fallait reconstruire le pays. Donc, il a dit aux le gouvernement a dit aux associations, regroupez-vous pour organiser, animer et aider à reconstruire. Et c'est ce qui s'est passé. Les associations se sont regroupées dans les UDAF. Et de ce fait, la loi... qui perdure toujours, dit que les UDAF sont les représentants officiels des familles auprès des pouvoirs publics. C'est dans le code de la famille, et donc c'est la seule institution qui a cette fonction officielle dans le code de représenter les familles. Et alors de cela, les UDAF peuvent créer des services. C'est comme cela que l'UDAF de Meurthe-et-Moselle a créé des services, actuellement une vingtaine de services différents. Historiquement, le plus connu était des services de mesure de protection des majeurs protégés, ce qu'on appelle les tutelles. Mais aujourd'hui, la diversification fait que nous avons une vingtaine de services différents. Le dernier bébé, si je peux dire, c'est la Maison des Élans, qui est à Nancy, rue de Newcastle, près des Kinépolis, qui est une création récente de un peu plus d'un an, un an et demi, et où on accueille des services et des, qui sont gratuits à destination des personnes aidantes. Et il y a beaucoup de personnes aidantes dans la société actuelle.
Donc c'est à tous les niveaux, justement, et on le voit, l'UDAF a su s'adapter aux besoins de la société. Les aidants d'hier existaient déjà, mais ils n'avaient pas les mêmes besoins. Et ceux d'aujourd'hui, on voit bien, on a cette maison qui répond à ce service-là. Mais du coup, pour revenir à toi, Jean-Paul, cet engagement t'a amené à prendre beaucoup d'autres engagements au titre de, justement, de cet engagement familial. Je parcourais, tu sièges au sein du conseil d'administration des bailleurs sociaux, des CCAS. Oui. Ça, c'est le fruit de cette loi de 45.
Oui, bien sûr. Parce que comme la loi dit que les UDAF représentent officiellement les familles, de ce fait, l'UDAF est membre de droit d'un certain nombre d'organismes. Alors, je ne suis pas tout seul, hein. Il y a des 200 bénévoles, militants, qui sont dans diverses structures, hein. Par exemple, on a 4 administrateurs à la caisse d'allocation familiale, on est membre de droit des offices publics d'HLM, on est membre de droit de tous les CCAS du département, etc. Donc, vous voyez que c'est un immense domaine.
50 ans de vie associative, 50 ans d'engagement. Si tu devais partager la joie à d'autres de s'engager, tu dirais quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté ces
années? Je l'ai dit au départ, des rencontres. Ça c'est et l'enrichissement des rencontres. C'est-à-dire tous les gens qu'on a l'occasion de rencontrer, avec qui on échange, on débat, on participe, on construit, ça nous enrichit. Alors évidemment, plus ou moins sur les relations qu'on a, mais franchement, je pense que je me suis en permanence enrichi au contact de tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie.
Merci Jean-Paul.